Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Hossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des interactions entre des fourmis et des plantes. Les relations que peuvent entretenir les fourmis avec les plantes, les arbustes et les arbres, sont des relations d'un tout autre genre comparées aux relations entretenues avec d'autres insectes. Ce sont des relations mutualistes ou symbiotiques. Il s'agit d'une association bénéfique et réciproque entre une espèce de fourmi et une espèce de plante en particulier, incapable ou presque de vivre l'un sans l'autre et où chacun des partenaires tire profit de la présence de l'autre. Chez les fourmis, chaque espèce possède sa technique pour vivre en harmonie avec sa plante hôte. Ceci est tout simplement le fruit de milliers d'années de coévolution, de sélection naturelle, où plantes et fourmis ont évolué ensemble. Plus concrètement, les fourmis permettent aux plantes de pousser en les protégeant d'insectes ravageurs, comme des chenilles ou d'animaux herbivores. En échange, les plantes offrent aux fourmis un gîte sécurisé et protégé et de la nourriture, notamment sous la forme de nectar. Les plantes qui hébergent des colonies de fourmis sont dites myrmécophytes. Certaines plantes peuvent offrir des petites loges pour abriter la colonie, et les fourmis chassent les autres insectes à partir de galeries fabriquées par elles-mêmes. Ces associations, plantes-fourmis, contribuent aussi à enrichir la biodiversité des forêts tropicales. Mais d'autres symbioses restent encore à découvrir, d'autant que les scientifiques estiment que des milliers d'espèces de fourmis sont encore à découvrir. La littérature, disons-le, regorge d'exemples d'interactions entre les fourmis et les plantes. Nous pouvons observer de nombreux exemples d'arbustes et d'arbres myrmécophytes, des situations où les fourmis favorisent l'apparition de plantes épiphytes sur les arbres, une interaction singulière en Asie du Sud-Est entre une espèce de fourmi et une plante carnivore, ou le fait que des fourmis répandent des graines de différentes espèces de plantes. Les arbustes et les arbres myrmécophytes sont caractérisés par la présence de structures préformées qui permettent d'héberger les fourmis, les domaties ou des épines et des tiges évidées, et parfois par la présence de nectars extrafloraux riches en sucre dont raffolent les fourmis et de corps nourriciers riches en lipides et protéines, tout simplement pour les nourrir afin de maintenir les fourmis à demeure. D'après la littérature, ces interactions, au demeurant singulières, jouent un rôle particulièrement précieux dans les écosystèmes tropicaux. En échange du gîte et du couvert offert par le myrmécophyte, les fourmis le protègent des herbivores, comme par exemple des éléphants, qui n'apprécient guère les fourmis. Avec recul, cette association, entre l'arbre et la fourmi, permet de maintenir un certain équilibre entre la forêt et la prairie. Nous trouvons différents exemples de myrmécophytes à travers le monde, que ce soit en Amérique tropicale ou en Asie du Sud-Est. Nous pouvons aussi observer des situations singulières où le myrmécophyte se retrouve isolé des autres plantes, même en sous-bois. En fait, ces associations exclusives peuvent parfois aboutir, au milieu d'une forêt, à une zone monospécifique nommée les jardins du diable. En ces lieux, la fourmi a façonné son environnement grâce à l'acide formique sécrété, de telle sorte que seul soit maintenu le myrmécophyte. Ainsi, au cœur de la forêt d'Amazonie, Myrmelachista schumani fait table rase autour de l'arbre où elle niche, le Durola hirsuta, quand une autre espèce de fourmi fait de même autour de l'arbuste Tocoa occidentalis, favorisant ainsi leur développement. Nous pouvons penser que ces associations reposent simplement sur des échanges gagnant-gagnant. Ce n'est pas forcément si évident d'après la littérature. Par exemple, le myrmécophyte peut contrôler les ardeurs de la fourmi. Un arbuste peut modifier sa croissance pour obliger une fourmi à se contrôler elle-même. Le myrmécophyte peut aussi imposer une contrainte. Une étude scientifique récente sur l'association entre un acacia et une fourmi montre que cette fourmi est incapable d'aller sur d'autres plantes. Le myrmécophyte manipule son métabolisme en modifiant ses capacités enzymatiques à digérer le saccharose tout en concoctant une nourriture qu'elles peuvent assimiler sans difficulté. La littérature évoque parfois le cas de fourmis arboricoles, c'est-à-dire qui vivent dans les arbres, mais à la base de plantes épiphytes, c'est-à-dire de plantes qui vivent sur les arbres, mais sans en être les parasites. Ces fourmis sont à l'origine de ce qu'on appelle les jardins de fourmis, à savoir de cet ensemble nid de fourmis, plantes épiphytes, sur un arbre vivant. Cette association singulière a été décrite pour la première fois dans les années 1990 en Guyane avec la fourmi Neoponera goeldi. Elle construit des nids de bois malaxés sur les arbres en incorporant dans les parois des graines particulièrement attractives et récoltées dans les environs. Ces graines appartiennent le plus souvent à des espèces précises comme par exemple l'Aracée anthurium gracile. Les graines germent et produisent des radicelles qui renforcent en fait les parois du nid de la fourmi. Par la suite, alors que la société s'agrandit, les ouvrières ne cessent d'apporter de la matière organique au nid jardin pour maintenir les plantes épiphytes en vie. Ce mutualisme fourmi-plante permet de s'installer durablement sur les arbres et aux plantes épiphytes d'être dispersées et protégées par la fourmi. Dans un autre registre, évoquons les plantes carnivores. Comme nous le verrons, dans la partie dédiée aux ennemis des fourmis, dans quelques épisodes, des plantes carnivores comme le Drosera à feuilles rondes peuvent capturer des fourmis au cours d'exploration du territoire à la recherche de nourriture. Cependant, des fourmis peuvent aussi entretenir des relations avec les plantes carnivores du genre Nepenthes qui présentent des feuilles modifiées en forme d'urne. Vous connaissez certainement ce genre, il est assez fréquent dans les jardineries. En Asie du Sud-Est, les scientifiques ont observé un véritable mutualisme de nutrition entre la plante carnivore Nepenthes micalcarata et la fourmi Camponotus schmitzi. La fourmi chasse à l'affût pour le bénéfice de celle qui lui offre le gîte et le couvert. Dès qu'un insecte tombe au fond de l'urne, les ouvrières plongent dans le corrosif liquide digestif pour l'en sortir et le consommer. Plonger dans un tel liquide sans en mourir est un fait exceptionnel chez les fourmis, sans équivalence chez les autres espèces. En résumé, ici, la fourmi obtient un nid et du nectar, alors que la plante carnivore connaît une bonne activité digestive grâce au plongeon des fourmis, obtient des protéines prédigérées grâce aux fesses, des fesses riches en azote des fourmis, et une protection contre les autres insectes. En 2016, une étude scientifique a révélé pour la première fois l'existence de fourmis cultivatrices de plantes sur les îles Fidji. L'espèce Philidris nagaso cultive 6 plantes du genre Squamellaria depuis plusieurs millions d'années. Des travaux de recherche à venir devraient nous préciser l'intérêt de cette culture pour les fourmis. Nous l'avons vu avec leur rôle dans les écosystèmes, nous venons de brièvement l'évoquer. Certaines espèces de fourmis, en particulier les fourmis granivores, dites fourmis moissonneuses, comme celles du genre Mestor, participent activement à la dissémination des graines, ce qui contribue au développement de certaines espèces de plantes. Nous allons à présent parler d'interactions que peuvent avoir certaines fourmis avec un champignon. Comme nous l'avons vu, certaines espèces de fourmis entretiennent aussi des relations particulières, singulières avec un champignon au cœur du nid. Ces fourmis, caractérisées dans la littérature de fourmis champignonistes ou de fourmis agricultrices, appartiennent principalement aux genres Atta et Acromyrmex. Parfois, elles peuvent appartenir à d'autres genres, comme par exemple Sericomyrmex. Les fourmis champignonistes sont aussi des fourmis coupeuses de feuilles. Pour être précis, ces fourmis cultivent un champignon nécessaire à l'alimentation des larves à partir de feuilles qu'elles découpent à longueur de journée dans la nature, en provoquant parfois, disons-le, certains ravages ou à partir de fragments de feuilles de la litière, comme par exemple pour l'espèce Sericomyrmex amabilis. Une espèce de fourmi entretient et se nourrit d'une seule espèce de champignon au cœur de son nid. Ces fourmis entretiennent de véritables jardins de champignons au sein de leur nid dans le sous-sol fertile. Des photographies présentent ces champignons comme étant en fait une sorte d'éponge entretenue dans une des loges bien distinctes du nid. Parfois, le champignon peut occuper carrément tout le nid. Il est cultivé en tout cas par les fourmis dans de bonnes conditions de température et d'humidité. Il est constamment alimenté en fragments de végétaux divers, et en particulier de feuilles, par les ouvrières. Les excréments des fourmis servent aussi à la culture du champignon. Ce champignon est si précieux pour les fourmis que lors de l'essaimage, les jeunes reines quittent le nid en emportant un morceau de ce champignon pour le disséminer dans le futur nid. D'après certains ouvrages, les différentes castes d'ouvrières participent en réalité à la culture du champignon à différents niveaux. Les ouvrières médias découpent des fragments de feuilles dans les arbres et les rapportent au nid, au-dessus de leur tête, ce qui leur vaut le surnom d'ailleurs de fourmis parasol. Les images de ces fourmis sont bien connues. Dans le nid, les ouvrières minores découpent les feuilles en petits fragments et les répartissent sur le jardin du champignon. Elles récoltent aussi de petites parties nutritives pour alimenter les larves. Les fourmis champignonistes, disons-le, utilisent aussi des fongicides sélectifs pour protéger le champignon dont elles se nourrissent. Elles ont réussi à développer des associations sans véritable équivalence dans le règne animal. En fait, pour éliminer les champignons étrangers qui ne les intéressent pas et éviter surtout leur développement au sein du nid, les fourmis utilisent une sécrétion acide et une association avec une actinobactérie. D'après des récents travaux de recherche sur la bactérie associée à une fourmi, une substance est à la base de l'action antifongique. Il s'agit donc d'une association entre une espèce de fourmi, un champignon et d'une bactérie, une association très surprenante et singulière dans le règne du vivant. Nous le devinons une nouvelle fois au cours de l'évolution. Certaines espèces de fourmis ont appris à cultiver une espèce de champignon en particulier pour s'en nourrir. De nombreuses découvertes sont encore à faire pour comprendre cette relation, voire d'autres formes de relations, sans doute plus discrètes. Les fourmis peuvent aussi entretenir une relation avec un champignon dans le cadre de la construction du nid. Par exemple, en Europe, dans les forêts tempérées, une fourmi bâtit son nid au cœur d'un arbre creux en entretenant un champignon dont les filaments, en fait, renforcent la structure à la base du bois malaxé. L'implication du champignon peut être plus déterminante chez la fourmi Halomerus decemarticulatus, qui, comme nous l'avons vu, pratique l'embuscade pour chasser des proies sur l'arbuste hôte du genre Hirtelia. Ici, le champignon intervient tout simplement dans la structure qui permet à la fourmi cette fameuse embuscade. Ces représentants de trois règnes du vivant, insectes, plantes, champignons, sont ici unis dans un mutualisme tripartite assez exceptionnel. Ainsi se referme cet épisode sur les interactions que peuvent avoir les fourmis avec les plantes et les champignons. La prochaine fois, nous changerons de registre puisque nous parlerons des fourmis invasives. À bientôt! C'était Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Hossé.